Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui ici. Et vous allez avoir une triple peine. Je suis hispanoparlant, je suis très malade et je suis très droguée. Donc, on va essayer de le faire simple, court, et soyez, ayez pitié. Merci d'avance. Bon, je vais présenter aujourd'hui les résultats de l'enquête VIH hépatite V qui a été menée par Aide en 2010. Mais j'ai aussi pris pas mal de témoignages de personnes vivant avec le VIH, de propos qui ont été collectés par un ex-collègue à moi qui s'appelle Renaud Percio. Et je vais profiter aussi quand même pour vous raconter quelques autres projets qui sont en cours à Aide en ce moment. Et sur lesquels il y a des points communs sur les questions de la vie suisse. Enfin, je pense à PrEP, vieillissement, etc. Vous allez voir par la suite. Donc, juste pour intro, janvier 2008, moi, je me souviens encore de ce jour-là, on a connu la publication de la vie suisse. Donc, au cas où il y a encore une personne qui ne le connaît pas, cet avis suisse disait « Les personnes séropositives ne souffrant d'aucune autre MST et suivant un traitement antirétroviral efficace ne transmettent pas les VIH par voie sexuelle. » Cet avis suisse, je pense qu'on est tous assez conscients, a induit un fort débat dans les champs des sciences sociales, dans les champs de sciences comportementales, mais aussi dans les champs médicaux et associatifs. D'un autre côté, et juste pour me placer d'où je parle. Et il y a Aide, et donc une association de lutte contre le VIH et qui est censée porter la parole des personnes vivant avec le VIH, dont les activités en prévention sont basées sur les principes de la réduction des risques sexuels et qui portent un intérêt particulier sur la question de la qualité de la vie chez les personnes séropositives. Du coup, on s'est intéressé avoir une meilleure connaissance sur quelles étaient les personnes qui, de fait, étaient au courant ou pas de cet avis suisse et quel était l'impact de cette connaissance sur leur comportement. Donc, et pour le dire plus en détail, ce qu'on voulait savoir, c'était quels sont les facteurs associés à la connaissance de l'avis suisse, quelles étaient les sources d'informations par rapport à cette connaissance et évaluer le changement s'il y en avait. Donc, pour obtenir cette information, on a fait une enquête transversale à l'échelle nationale remplie par 2356 personnes qui a été réalisée en octobre 2010. Donc, pendant une semaine, un questionnaire auto-administré a été systématiquement proposé à chaque personne en contact avec elle. Par ailleurs, il avait aussi une version en ligne de questionnaire qui a été annoncée sur Internet dans plusieurs sites gays et VIH. Le questionnaire VIH hépatite V utilise des questions standardisées concernant les données sociodémographiques, l'état de santé, les situations psychosociales et économiques des personnes, l'usage des drogues, le sentiment d'appartenance à une communauté, l'accès aux services de santé et l'utilisation des réseaux de solidarité VIH parmi d'autres. Nous avons effectué des analyses à régression logistique univariée et multivariée afin de déterminer quel était le facteur associé à la connaissance. Donc, un premier résultat, c'était parmi les 977 personnes qui se déclaraient VIH, c'était qu'il y avait 57% qui connaissaient la vie suisse, enfin, qui la connaissaient avant le jour de remplissage du questionnaire. Parce que dans ce questionnaire, on expliquait qu'est-ce que c'était la vie suisse et on demandait est-ce qu'avant de ce jour-là, vous aviez entendu parler ou pas de cette information. Je ne sais pas si vous pensez si c'est beaucoup ou trop, si c'est beaucoup ou très peu. À notre avis, c'était à 12 ans de la vie suisse qu'il y a encore plus de 40% des personnes qui ne connaissaient pas. C'était quand même... ça nous interpellait. Et ça m'a fait penser, par exemple, à l'enquête PrEP qu'elle a menée récemment, où on voit que malgré tous les débats à ces sujets et comment on en parle entre nous, il n'y a qu'un tiers des personnes qui sont au courant de ce que c'est la PrEP. Donc on voit quand même que chaque fois qu'il s'agit d'une innovation en termes de prévention, etc., l'information a beaucoup de mal à passer. Je dirais que presque il a de plus en plus de mal, vu le pourcentage de connaissances. Donc... J'étais censée vous représenter les témoignages, mais je pense que je n'aurai pas la capacité vocale de vous le faire. Voilà un témoignage sur la question de la méconnaissance de la vie suisse. Donc cette avancée, je n'en avais pas entendu parler. Ça m'a enlevé une forte angoisse. Si je peux dire à mon copain qu'il y a une solution, que je ne risque pas de lui passer le virus, ça va être plus facile dans notre couple. Peut-être que ça va recommencer comme avant. Alors, sur le comment, quand on a demandé aux personnes quelle était la source d'information, ce qu'on a pu constater, c'est que la majorité des répondants l'ont découvert à travers des organisations VIH, donc un 53%, que seulement un 30% ont déclaré avoir cette information à partir de le cadre médical de soins, et que 25% ont déclaré avoir entendu parler de lui grâce à d'autres personnes séropositives. Lorsque nous avons comparé ceux qui connaissent la vie suisse à ceux qui ne les connaissent pas, nous n'avons trouvé aucune différence significative en fonction de l'âge, du fait d'être co-infecté par une hépatite et d'avoir un implant. Voilà, ici un autre témoignage. C'est aussi un couple sérodifférent. Donc, pour moi, le seul truc fiable, c'est le préservatif. Le traitement, ce n'est pas une barrière physique. Ça ne m'inspire pas confiance. J'ai trop peur de transmettre le virus. Les préservatifs ne me posent pas problème. Auquel on répond, moi je pense que c'est fiable. Je suis super observante, alors l'efficacité est maximale. C'est un soulagement de savoir que je ne suis plus contaminante, que je ne suis pas une bombe virale. Chez nous, ça sort à peine, mais en Suisse, ça fait au moins 300 qu'on le sait. J'ai l'air un peu fofolle comme ça, mais je me suis documentée. Je suis un peu concernée, non? Tu crois vraiment que ça peut marcher, Elvira? Comment on fait? Donc, pour revenir aux questions de l'enquête VHV, nous avons trouvé que les personnes séropositives au courant de la vie suisse sont significativement plus nombreuses à être en contact avec des réseaux de solidarité VIH en ligne, à vivre dans un logement stable, à se considérer comme appartenant à la communauté LGBT et avoir rempli des questionnaires en ligne. Par ailleurs, le répondant connaissant la vie suisse déclare aussi un meilleur état de santé. Il déclare significativement plus avoir une charge virale indétectable et avoir un taux de CD4 supérieur à 350. Alors, revenons sur la question de est-ce qu'il y a des changements ou pas. Les résultats nous ont montré quelques changements mineurs parmi les 556 personnes positives au VIH qui ont déclaré connaître la vie suisse. Par exemple, un 14% déclare avoir une meilleure qualité de vie sexuelle. On trouve aussi qu'il y a un 15% qui déclare avoir une meilleure observance de leur traitement. Pour ce qui concerne l'utilisation de la capote, 76% des répondants déclarent l'utiliser ni plus ni moins qu'avant, donc trois quarts qui restent pareils. Et parmi les 24% des répondants déclarant un changement, parce que ce changement n'est pas forcément utiliser moins la capote, on voyait bien que la moitié augmentait l'utilisation de la capote et l'autre diminuait. Quant à savoir avoir moins peur de transmettre le VIH, nous avons trouvé un pourcentage plus élevé, donc un 31%. On sait qu'il concerne la question d'avoir moins de difficultés à parler du VIH avec les partenaires sexuels, nous avons trouvé les plus grands changements, puisqu'un 55% des répondants déclarent avoir moins de difficultés. Alors, la conclusion que je serais de cette diapositive-là, c'est que oui, évidemment, il y a des changements. Ils sont plutôt des changements qui vont dans le sens d'une amélioration de la qualité de vie des personnes, d'une amélioration de la communication autour du VIH. Et oui, il y a des changements de comportement par rapport à la crainte des inhibitions, où on voit qu'il y a des gens qui utilisent moins la capote. Nous sommes allés voir ces personnes-là et ils avaient une charge virale indétectable. Donc, on était plutôt dans une très bonne appropriation de la vie suisse, tandis que les personnes qui recommençaient à utiliser la capote, c'était des personnes qui avaient une charge virale détectable. C'est-à-dire les gens comprennent très très bien les messages et les mettent en place. Donc, juste pour revenir sur ces questions, et comme c'est un sujet qui on entend systématiquement aussi par rapport à la PrEP, je vous dis plutôt ce qui est en bas, mais qu'on a entendu aussi par rapport à la PEP, et qu'on a aussi entendu pour la pilule de lendemain, et qu'on a entendu aussi pour la pilule contraceptive, et qu'on a entendu aussi pour l'avortement. Non, semble-t-il qu'avoir de l'info ou un dispositif concernant cet outil ne produise pas une désinhibition. Au contraire, il y a plutôt des changements qui vont plus dans la question de prendre soin de soi-même et d'une capacité à s'approprier l'information, qui est assez remarquable, mais qui en revanche n'est pas forcément toujours très visible dans les publications. Il faut fouiller beaucoup pour aller chercher ce type d'infos, tandis que dès qu'il y a une référence concernant une potentielle désinhibition, ça apparaît référencé partout. Donc là, encore quelques témoignages concernant la question de la qualité de vie sexuelle et de la peur. Donc mon premier médecin m'avait dit, monsieur, même avec une seule copie des virus, vous serez toujours contaminant. Et j'ai choisi de commencer le traitement parce que j'ai angoissé de contaminer mon copain. J'avais peur que la capote se déchire et qu'il faille courir à l'hôpital. Je n'arrête pas, les médecins étaient à mon écoute. Puis, utiliser Herschel, c'est comme une négociation dans un couple séronégatif qui dit capote en dehors du couple. Utiliser le traitement comme un moyen de prévention, ça gomme des différences et des barrières. Donc, ce qu'on peut conclure à partir des mots de personnes vivant avec le VIH, c'est que la vie suisse apparaît comme une motivation supplémentaire pour trois choses. D'abord, éventuellement pour commencer le traitement plus tôt, puisqu'on peut faire une balance de bénéfices-risques plus éclairée à partir des informations prouvantes. Ça peut aider à améliorer et à maintenir l'observance chez les personnes vivant avec le VIH. Et aussi, ça peut aider à avoir des rapports sexuels avec les préservatifs parce qu'il y a une autre possibilité et du coup, dans la vie sexuelle de la personne. Du coup, partir sachant qu'on n'est pas condamné à utiliser les préservatifs pour toute la vie, ça peut aider à l'utiliser d'une autre façon moins contraignante. Voici, juste pour revenir un peu sur la question de la prévention combinée. Et parce que ça aussi, ça me fait beaucoup penser à la PrEP, cette idée que si on délivre une information comme le TASP ou comme la PrEP, ce serait quelque chose qu'on va utiliser toujours, pour toujours et jamais, avec tout le monde. C'est juste de revenir vers l'idée que ce sont des outils qu'on peut utiliser à un moment donné, dans des circonstances particulières, avec des partenaires particuliers. Et qui, en tout cas, l'annonce de TASP n'annule en aucun cas toutes les infos qu'on peut avoir par ailleurs sur d'autres moyens de prévention et que ça va être assez bien démontré. Je me suis amusée à récupérer quelques recommandations qui ont été faites par des gens qui venaient à aide en 2011, parce qu'il y en a pas mal qui pourraient encore s'appliquer à d'autres domaines, mais aussi parce qu'ils ne sont pas, malgré 2008, la vie suisse. Je pense qu'il continue à ne pas être forcément abouti. Bon, ça par contre, oui, hein, Bruno, la position de aide, mais ce qui a à voir avec la position des associations par rapport à l'arrivée de nouveaux outils, qui n'est pas toujours évident, ça doit faire un chemin. Et le fait d'avoir un discours clair sur l'efficacité du TASP chez les gays, et avoir plus d'informations sur les pratiques et les risques associés, la création des espaces de parole et des campagnes qui en parlent, et porter ses plaidoyers dans les milieux hospitaliers, faire des formations et informations du personnel soignant afin d'améliorer la communication entre les médecins qui font le suivi des personnes séropositives, puis créer éventuellement des outils d'information qui soient faits en partenariat, parce que quand même... ça n'a pas le même impact quand c'est un message délivré par les milieux associatifs que quand c'est un message délivré par le milieu médical. Et par exemple, parmi les personnes qu'on a retrouvées à aide, on voyait des gens qui avaient l'information par notre biais, mais que si les médecins émettaient la moindre doute sur la possibilité de se contaminer, c'était cette information qui importait carrément sur la vie suisse. Donc, ces résultats nous fournissent des informations plus précises sur les profils des personnes qui connaissent la vie suisse et qui est une connaissance qui provient majoritairement du milieu associatif. On voit bien qu'appartenir à une communauté, à la communauté LGBT dans ces cas précis, ou à un réseau de solidarité ou en responsabilité augmentent la probabilité de connaître la vie suisse. Autrement dit, les personnes qui ne se sentent pas seules ont plus de probabilités de connaître la vie suisse. Même chose pour les personnes qui ont un meilleur statut socio-économique ou un meilleur statut immuno-virologique. Meilleure est la vie de cette personne, plus ils sont informés, ou au contraire, plus ils sont informés, une meilleure qualité de vie. Concernant les effets, et en prenant en considération que nous n'avons que des résultats descriptifs, nous avons constaté que la majorité des personnes séropositives qui connaissent la vie suisse ne déclarent pas des changements majeurs dans les différentes dimensions mesurées. Cependant, les résultats montrent que ces changements vont plutôt dans un sens positif dans certaines dimensions, comme la survie au traitement, l'amélioration de la qualité de vie sexuelle et surtout la capacité d'en parler avec les partenaires sexuels. On peut conclure alors que la vulnérabilité sociale et un état de santé plus dégradé semblent être des obstacles à la connaissance de la vie suisse, car ceux qui ont un logement instable, une infection non contrôlée du VIH, ceux qui sont plus isolés, les connaissent significativement moins. Il faut donc des interventions dans les cadres associatifs et médicaux visant à améliorer l'accès à cette information parmi les personnes les plus vulnérables et isolées. Et puisque toutes les personnes concernées par le VIH ont le droit à connaître des informations concernant leur état de santé et qui peuvent améliorer éventuellement leur qualité de vie. Je finis par encore quelques mots de personnes vivant le VIH et je vous remercie beaucoup de votre attention.